Cette semaine, dans l'ordre du monde, on parle d'un retour, celui des Britanniques. Après le Brexit, le Briturn. Et si Londres avait à nouveau besoin de Bruxelles?
C'est la porte d'entrée de la Chine en Amérique latine. Focus sur le port de Shanghai, au Pérou. On verra aussi comment les terres rares structurent toute la géopolitique de Donald Trump.
On vous emmènera aussi à Istanbul, où le président Erdogan essaye de devenir un médiateur incontournable sur la scène internationale.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti!
Bonjour à tous, salut Annalisa, bienvenue dans l'Ordre du Monde. Je suis Mathieu Jolivet, chroniqueur international sur BFM Business. Chaque semaine, dans ce nouveau podcast géopolitique, on vous décrypte les cartes, les alliances stratégiques qui nous animent toute l'année avec Annalisa.
Et oui, moi c'est Annalisa Capellini, également chroniqueuse internationale à BFM Business. Moi, je m'occupe du matin, Mathieu s'occupe du soir. Donc à nous deux, on couvre à peu près
toute la planète. 24 heures de géopolitique.
Et donc pour cette semaine, on va partir, Mathieu, dans un de tes points de repère, puisque la passion de Mathieu, ce sont les cartes. Il faut savoir que lui, il a cette immense passion pour les cartes. Il part d'un point et il nous raconte des histoires magnifiques. Et là, cette semaine, tu nous amènes au Pérou, Mathieu.
C'est ça, il n'y a pas de sous-passion. Hein. C'est les cartes. Je vais t'emmener dans un endroit, tu vas voir. On va partir de la France et puis ensuite, je vais te faire traverser toute l'Atlantique. On va de l'autre côté, on arrive sur le continent latino-américain. Mm-hmm. On va carrément de l'autre côté jusqu'à la façade atlantique. Et là, on arrive à 80 km au nord du Pérou. C'est le port de Shanghai. Shanghai, ne pas confondre avec Shanghai, même si tu vas voir qu'il y a un lien entre le Pérou et la Chine. Regarde, si jamais on dézoome, hein, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on a ? En dézoomant, on a au-dessus du Pérou, un peu plus haut, forcément le continent nord-américain de Donald Trump, hein, qui lorgne forcément sur le sud. Ensuite, on traverse tout le Pacifique et pile poil de l'autre côté, on arrive en Chine. Et c'est là que ça va nous intéresser parce qu'aujourd'hui, le port de Shanghai au Pérou, c'est devenu une des principales portes d'entrée de la Chine en Amérique latine. Pourquoi c'est important? Parce que déjà Trump, il vient d'enlever le président du Venezuela. Il rappelle que l'Amérique latine, c'est son précaré à lui. Mais ce précaré-là, la Chine, en fait, elle l'a investi massivement et en très peu de temps.
Ça a commencé, je crois, quand la Chine est rentrée dans l'OMC, tout début des années 2000.
Exactement, ça a commencé en 2001 exactement. Et là, les échanges entre la Chine et l'Amérique latine, ils ont totalement explosé. Il faut bien voir qu'ils pesaient 10 milliards de dollars en 2000 et ensuite 518 milliards en 2024. Ça veut dire qu'ils ont été multipliés par 50 en 25 ans. Les intérêts entre l'Amérique latine et la Chine, ils sont mutuels, hein. D'un côté, tu as l'Amérique latine qui exporte tous ses produits agricoles et puis ses ressources énergétiques comme le pétrole vers la Chine. De l'autre côté, on a une Chine qui finance massivement les besoins de l'Amérique latine. Elle exporte ses voitures, ses produits électroniques et puis c'est devenu un peu le grand banquier de l'Amérique latine. En fait, après l'Asie, l'Amérique latine, c'est devenu la zone qui pèse le plus pour la Chine dans ses échanges avec le reste du monde.
Et alors, est-ce que ça fait partie du grand projet de Xi Jinping, les routes de la soie? C'est qui vise à tu sais, étendre le soft power chinois.
Tu fais bien d'en parler, c'est au cœur de ces nouvelles routes de la soie. Aujourd'hui, 22 pays d'Amérique latine ont intégré ce programme. Cette nouvelle route de la soie, elle a été lancée en 2013. C'est vraiment la grande marque de fabrique de Xi Jinping. C'est un cadre, en fait, qui structure toutes les relations économiques de la Chine avec le reste du monde. Oui. Et pour sécuriser, en fait, ses échanges, son business avec le monde, Xi Jinping met en place des contrats, en fait, sur les routes, sur les ponts, sur les trains et justement sur les ports commerciaux. Comme ça, il sécurise tout le business. Et donc, son principal hub, un de ses principaux en Amérique latine, c'est devenu, pour ceux qui nous regardent, vous le voyez, ce mégaport de Shanghai, à 80 km de Lima. Il a été financé par le chinois Cosco, géant du transport maritime, et inauguré en 2024. Hein, donc, il est tout beau, tout neuf. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en Amérique latine, derrière ce port de Shanghai, vous avez aussi plein de routes et de corridors qui ont été façonnés un peu partout en Amérique latine pour acheminer des produits le plus vite possible jusqu'à ce port. Il y a notamment un corridor une route amazonienne qui part du Brésil et qui en fait va jusqu'à ce port de Shanghai. C'est des routes qui existaient déjà mais qui ont été redessinées, refaçonnées avec l'idée de gagner du temps parce que le temps, c'est de l'argent. En tout cas, oui, c'est assez fascinant de voir comment se structure ce business mondial impulsé par Xi Jinping. Et tous ces montages financiers et ces routes, elles alimentent un débat qui est en train de monter en Amérique latine sur le degré de dépendance aux partenaires chinois, avec certains qui dénoncent une relation qui est de plus en plus déséquilibré. En tout cas, c'est vraiment un sujet qu'on va suivre avec attention dans l'ordre du monde, parce que ce qui se joue en ce moment en Amérique latine, Annalisa, c'est un peu la doctrine d'Unro de Donald Trump, qui est prêt à préempter des gens, on l'a vu avec Maduro, ou des biens au nom de la sécurité nationale des États-Unis. Donc, doctrine d'Unro contre la nouvelle route de la soie de Xi Jinping. Et bien ça, sûr. C'est passionnant.
C'est un champ de bataille. Ouais. Et ça nous rappelle aussi ce qui s'était passé avec le port du Pirée, le port d'Athènes en Grèce, qui est une des portes d'entrée de la Chine en Europe. Donc, ça fait partie de la stratégie de Xi Jinping.
Il y a même
de...
des Américains qui viennent de s'installer en face des Chinois.
Exactement.
Au port du Pirée.
Donc, il faut bien surveiller les ports.
Une bonne idée de carte à suivre, Annalisa.
Exactement. Non, mais il faut bien surveiller les ports, parce que c'est souvent par là que les influences étrangères passent, parce que c'est par là que tout le commerce rentre dans un pays, dans un continent.
Exactement, exactement. Donc, toi, tu le disais tout à l'heure, ta passion, ce sont les alliances stratégiques.
Oh oui.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Là, il y a un truc assez dingue qui est en train de se passer en ce moment.
Ah oui, en fait, c'est un retour, tu sais, comme une histoire qui n'en finit pas. On parle même de Britain après le Brexit. Donc, c'est le Britain, c'est comme ça qu'on appellerait un éventuel retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Évidemment, on n'en est pas là. On ne va pas revenir à l'Union européenne à 28. Ce n'est pas du tout ce qui se profile. Mais les Britanniques essayent petit à petit de se rapprocher de l'Union européenne, qu'ils ont pourtant critiqué jusqu'à il y a encore 5 ou 6 ans. Et bien maintenant, ils ont besoin de l'Europe, donc ils essayent de se rapprocher de plein de manières. On l'a vu de manière très spectaculaire il y a quelques jours, parce que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a annoncé que les Britanniques vont travailler à nouveau avec les Européens sur la défense, et notamment avec le programme SAFE, qui est un fonds de défense européen doté de 150 milliards d'euros. Donc voilà, il faut recommencer à parler avec les Européens
Ça, c'est sur la défense, mais est-ce qu'il y a aussi des rapprochements qui se jouent sur le plan business, commercial?
Bien sûr, notamment sur le marché unique. Alors là encore, non, Londres ne va pas rejoindre le marché unique à nouveau, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur une intégration sectorielle. Là, on travaille ensemble sur l'énergie, on travaille ensemble sur l'agriculture. Mmh. Donc voilà, petit à petit, le Royaume-Uni revient dans l'orbite de l'Union européenne. Et d'ailleurs, Keir Starmer, qui était à Pékin la semaine dernière, le disait très clairement, c'est assez rare d'avoir une prise de parole aussi claire des Britanniques sur ce sujet-là. Il le disait, il faut s'aligner sur le marché européen, il faut aller plus loin, et c'est dans notre intérêt national. Vous imaginez ça, il y a 10 ans, ça aurait été absolument inimaginable.
Et en fait, Keir Starmer, c'est devenu un peu l'anti-Donald Trump maintenant.
Oui, bien sûr. L'idée, c'est effectivement qu'il faut se protéger de ce Donald Trump, et même si Keir Starmer insiste sur le fait qu'avec Donald Trump, il y a une relation particulière, évidemment, entre Londres et Washington, la vérité, c'est que Donald Trump ne pense qu'aux intérêts américains. On le voit très bien ces dernières semaines. Keir Starmer essaye de reparler avec la Chine, mais là encore, la Chine ne sera jamais vraiment un allié du Royaume-Uni. Et puis, il y a 10 ans, quand les Britanniques ont voté pour le Brexit, on n'était tout simplement pas en guerre contre la Russie. Les Russes n'avaient pas encore attaqué l'Ukraine, et donc on n'était pas en rupture totale avec l'Europe. Donc, vous voyez, là, 10 ans après le Brexit, le Royaume-Uni a un peu le pot de terre contre tous ces pots de fer, contre toutes ces grandes puissances qui risquent de l'écraser. Et donc voilà, c'est une bonne raison pour parler avec la bonne vieille Europe.
Et c'est quoi, c'est un aveu d'échec pour les Britanniques, ce qui se joue en ce moment, cette petite musique du Britain?
Moi, je dirais un petit peu quand même, oui, parce qu'on sait aujourd'hui que le Brexit a été assez catastrophique pour les Britanniques, pour l'économie britannique. On sait qu'il y a énormément de sondages qui disent que les Britanniques aujourd'hui commencent à regretter d'avoir voté pour le Brexit. Sauf qu'effectivement, c'est fait. On ne va pas revenir en arrière 10 ans après. S'il y a un rapprochement effectif, on va dire, dans les faits, ça va être dans quelques années. Mais là, voilà, en tout cas, Keir Starmer se rend compte qu'il a tout intérêt à reparler avec nous. Et donc, 10 ans après le vote du Brexit, on commence à enterrer tout doucement le Brexit.
Et en même temps, il faut suivre aussi, parce que je crois qu'il y a le principal parti d'opposition, Nigel Farage, avec
Reform UK.
Reform UK, droite populiste, qui lui fait un peu son beurre sur un discours anti-UE.
Effectivement, sauf qu'aujourd'hui, le discours anti-UE passe beaucoup moins, parce que un Royaume-Uni a l'air des empires, des grandes puissances, tout seul. Les Britanniques commencent à se rendre compte que c'était peut-être un peu hasardeux.
C'est passionnant, ça. Le Royaume-Uni qui fait son nid en Europe.
Eh oui, c'est le grand comeback.
Le grand comeback,
on peut le dire. Bon. Et il y a un autre sujet très épineux en ce moment, dont on parle beaucoup et dont tu vas nous parler. C'est ton choix de la semaine, Mathieu. C'est la géopolitique des minerais critiques. Ouais, j'adore ce sujet.
Ouais, c'est un sujet passionnant, parce qu'il y a un sommet assez important qui s'est tenu cette semaine à Washington. Et en fait, les terres rares, il faut bien comprendre que c'est au cœur de la géopolitique politique de Donald Trump. Alors, c'est presque ce qui structure sa politique étrangère. Pourquoi ? Parce que déjà, les terres rares, les minerais critiques, cobalt, etc., on ne va pas tous les lister, mais il y a énormément de produits stratégiques qui sont dans les sous-sols un peu autour du monde. En fait, ce sont des briques essentielles à la défense et au secteur de la tech, à l'automobile, à la transition énergétique. Et en fait, c'est devenu des actifs stratégiques, un peu comme l'or. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'économie américaine, elle est principalement soutenue, la dynamique de la croissance américaine est totalement soutenue par la tech. Sans la tech, il n'y aurait pas de croissance aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous avez aussi le plus gros budget militaire au monde, 1 000 milliards de dollars. Et sachant que les terres rares, c'est vraiment au cœur de ces deux secteurs, on comprend pourquoi Donald Trump y fait attention, d'autant que les terres rares, c'est la Chine qui en a un quasi-monopole. Et c'est pour ça que pour Donald Trump, en fait, il en a fait une véritable obsession de dépendance.
Ça explique quasiment tout ce qu'il a fait sur la scène internationale depuis son retour à la Maison Blanche.
Exactement.
Ça explique
tout. En fait, il en a fait une obsession de cette dépendance. Et il faut, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette grille de lecture des terres rares dans toutes les décisions que vous entendrez des États-Unis à l'étranger. Que ce soit les fameux accords de paix dont il se vante d'avoir été l'instigateur depuis un an. Que ce soit tous les accords qu'il a bâtis en Afrique. Que ce soit ses ambitions en Ukraine. Que ce soit ses ambitions au Groenland. En fait, en toile de fond derrière tout ça, vous avez une volonté de sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques. Regarde par exemple l'accord de paix en Arménie et Azerbaïdjan, où il se targue d'avoir mis fin à 35 ans, à 35 ans de guerre là-bas. Eh bien, en fait, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez voir, il y a un corridor très stratégique parce que il y a plein d'énergie et de minerais sur ce corridor qui s'appelle le corridor de Zangezur, qui a été rebaptisé pour l'occasion la Trump Road for Peace and Prosperity, tu vois, la route Trump pour la paix. Et en fait, il y a énormément d'entreprises américaines qui sont venues sécuriser tout ce corridor qui va de l'Azerbaïdjan à la Turquie. Et avec énormément de contrats. Et en fait, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Xi Jinping et ses routes de la soie en Amérique latine, là, derrière, l'idée, c'est de sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour son secteur de la tech et de la défense qui est au cœur de l'économie américaine. Donc voilà, c'est vraiment un sujet à suivre de très près et qui structure toute la géopolitique de Trump. Et il y a un truc aussi que je surveille là-dessus, c'est une petite musique qui monte avec l'Europe qui dit que sur le sujet des terres rares, eh ben pour le coup, il y a plus de tension avec l'allié américain. Parce qu'on est tous unis contre la Chine. Et c'est un peu cette petite musique qu'on a entendue cette semaine.
Est-ce que c'est vrai, ça ?
En fait, moi, j'y crois pas tellement. Je dis, faites attention à cette petite musique et le Groenland va être un vrai test là-dessus. Oui. Pourquoi ? Parce que Donald Trump est en train de négocier, c'est pas fini, il est en train de négocier peut-être des tout petits bouts de souveraineté un peu partout sur l'île pour des bases américaines, sécurité de la région, mais aussi mettre la main sur beaucoup d'hectares au Groenland, des terres sous lesquelles il y aurait des terres rares. Et je peux t'assurer que s'il arrive à faire ça, il sera plus question d'alliance avec avec l'Europe au sujet des terres rares. C'est vraiment chacun pour soi.
C'est chacun pour soi, effectivement.
Ouais. Toi, ton choix, cette semaine, tu nous emmènes à Istanbul.
Oui, exactement, à Istanbul, parce que c'était la ville qui avait été choisie pour les pourparlers entre Washington et Téhéran, qui vont avoir lieu normalement vendredi. Au moment où on enregistre, ils ne se sont pas encore passés. Donc à la base, c'était la Turquie qui avait été choisie. Depuis, les Iraniens ont demandé à déplacer les pourparlers d'Istanbul à Oman, à Mascate, la capitale de l'Oman. Et pourquoi ? Donc pourquoi ce choix ? Parce qu'il y a une histoire à raconter, évidemment, ce n'est jamais anodin. Et ça nous permet d'ailleurs de répondre à un de nos auditeurs, Yvan, qui nous avait sollicité sur la Turquie. C'est très intéressant parce que l'Oman est perçu au niveau des relations internationales comme un pays très discret, donc très adapté à la diplomatie officieuse. L'Oman n'a pas en ce moment la velléité, peut-être même pas la possibilité, d'être une grande puissance régionale, contrairement à la Turquie.
Qui lui se pose vraiment grand médiateur de régionale.
Exactement. En fait, la Turquie n'est plus une puissance neutre, c'est un grand acteur régional. Et c'est pour ça que l'Iran préfère la garder à l'écart pour l'instant, pour dire, voilà, ce sont des pourparlers, des pourparlers informels. Et surtout, la Turquie est très importante dans la région, donc l'Iran ne veut pas d'un autre grand acteur assis à la table des négociations.
Et comme toujours, derrière la géopolitique, il est aussi question de business dans la zone.
Évidemment, il y a surtout des questions business, mais plus en général, le business, effectivement, la Turquie, c'est très important parce que la Turquie fait du business avec à peu près tous les pays de la zone. Mmh. Ils ont signé, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, une alliance stratégique avec le Nigeria. Donc la Turquie met un point d'honneur à parler avec tout le monde. Vous savez, les Turcs se sont éloignés de l'Europe il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années, on parlait encore d'une potentielle entrée de la Turquie dans l'UE. Ce n'est évidemment plus du tout à l'ordre du jour maintenant. Pour autant, ils continuent de parler avec les Européens. Ils se sont rapprochés du monde arabe, mais en même temps, ils gardent leur proximité avec les Russes. Donc, ils sont vraiment dans cette optique de multi-alignement que, en fait, les Turcs appellent équilibre. Un équilibre, c'est grâce à leur position géographique, tu sais, entre l'Europe et l'Asie, au croisement des chemins. C'est un pays musulman, mais qui est davantage sécularisé par rapport à beaucoup d'autres pays musulmans, surtout dans les grandes villes. Et puis, ça devient vraiment un acteur géopolitique de premier plan. Aujourd'hui, Erdogan veut être le médiateur sur tous les grands dossiers.
C'est ça, parce que l'enjeu pour Erdogan, il est fondamental. Erdogan, lui, il a des enjeux, là, même sur la scène intérieure, où il a fait preuve d'un autoritarisme assez spectaculaire. Et sur la scène extérieure, il essaye d'exister pour mieux muscler son narratif en interne, j'imagine.
Exactement. L'idée, c'est qu'il n'y a plus aucun conflit qui se... Le projet d'Erdogan, en tout cas, c'est qu'il n'y a plus aucun conflit qui pourra se résoudre sans l'intervention de la Turquie. C'est lui qui a amené les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Il est intervenu dans le dossier entre l'Éthiopie et la Somalie. Tu parlais de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Là encore, Erdogan était intervenu. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu d'asseoir la légitimité. Mais regardez bien la Turquie, puisque c'est le grand médiateur de tous les prochains dossiers. Donc ne vous étonnez pas s'il y a encore des pourparlers, des événements très importants au niveau international qui se jouent à Istanbul. C'est normal, ça fait partie du projet d'Erdogan, en tout cas.
Super intéressant. On va terminer ce podcast par...
Par ce qu'on surveille. Qu'est-ce que tu surveilles la semaine prochaine, Mathieu, ton radar?
Alors moi, dans mon radar, je surveille en fait une réunion qui aura lieu le 11 février, qui est à Washington, et où en fait, Donald Trump a invité 34 chefs d'état-major pour discuter de la sécurité dans l'hémisphère occidental.
Ah, cet hémisphère occidental, son projet.
C'est ça. Et en fait, c'est vraiment au cœur de sa revue stratégique intérieure qui a été publiée au mois de novembre, où il dit que maintenant, l'hémisphère occidental, donc ce qui va du nord de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, en passant par le Groenland justement, c'est la sécurité intérieure des États-Unis. Donc c'est lui qui s'est un peu autoproclamé, entre guillemets, le shérif de toute cette zone. Et donc ce sera intéressant de scruter la tonalité qu'il y aura lors de ce rendez-vous, parce que tu vas avoir les chefs d'état-major de tout le continent, notamment sud-américain, mais tu auras aussi des chefs d'état-major qui viendront d'Europe, qui seront là-bas, parce que forcément, dans son hémisphère, tu as le Groenland, c'est le Danemark, c'est l'Europe. Donc, voilà, il faudra regarder, est-ce que ça va être un discours constructif sur le thème de la sécurité de cet hémisphère, ou est-ce que les Américains vont, sortir un peu le bâton en disant, voilà les règles, et... J'allais dire, qui même me suivent, chaque mot sera très important. Ce sera le 11 février prochain à Washington.
Il faut surveiller l'ambiance.
Ouais.
Écoute, on va rester dans l'hémisphère occidental, parce que dans mon radar, je pense qu'il faut surveiller la semaine prochaine l'ouverture du consulat français à Nuuk, au Groenland, la capitale du Groenland. C'est inauguré vendredi, donc fin de semaine, mais regardons bien ce qui se passe la semaine prochaine dans les jours à venir. Alors, il n'y a pas beaucoup de Français au Groenland. Pour l'instant, il y en a 6 qui sont déclarés. Donc, c'est une démarche politique, géopolitique, pour répéter encore une fois que la France et en général l'Europe, on est intéressé au Groenland et que c'est un territoire européen. On sait tous les esclandres qu'il y avait eu sur le Groenland il y a quelques semaines.
Ce sujet, je suis sûr qu'il va être aussi au cœur de cette réunion des chefs d'état-major
évidemment,
à Washington,
puisque
c'est sur la sécurité de l'hémisphère occidental. Et cette semaine, tu sais qu'il y a aussi le Canada qui officialise aussi, il avait un consulat honoraire, mais il officialise aussi son Canada à Nuuk. C'est pas anodin, juste avant cette réunion à Washington.
Donc tu vois, ça fait partie de toute cette stratégie des pays européens qui vise à dire, effectivement, ne touchez pas au Groenland, c'est à nous, c'est aux Danois. Donc voilà, c'est un consulat qui aura des compétences élargies, selon le Quai d'Orsay, donc voilà, qui vise à soutenir les chercheurs, les entreprises qui veulent s'y installer. Mais c'est évidemment surtout une question d'influence et de symbole, donc on suivra le consul.
Et je me dis aussi, d'un coup, ça fait écho au discours choc un peu qu'a fait le Premier ministre du Canada à Davos, Marc Carney, qui appelait à une alliance des puissances moyennes pour peser face à Donald Trump.
Bien sûr. Donc là, est-ce qu'ils vont se retrouver à Nuuk ? Peut-être.
Ah, Nook, the place to be.
Nook, the place to be.
Allez, l'ordre du monde, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on prend énormément de plaisir à partager avec vous notre passion pour la géopolitique. Et puis, surtout, continuez à nous écrire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions la semaine dernière quand
tu nous
as parlé, Annalisa, de ce rapprochement entre l'Italie
et l'Allemagne.
Oh là 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 là. Puis, on a parlé aussi de ce couple franco-allemand. Ne plus parler du couple du tout. Ça, vous êtes beaucoup à réagir là-dessus. Donc, voilà. Continuez à réagir. Dites-nous aussi de quoi vous avez envie qu'on parle, hein, quels sont les sujets qui vous intéressent, parce que vous êtes aussi nos sources d'inspiration.
Effectivement, et puis vous pouvez nous le dire évidemment sur toutes nos chaînes YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous suivre aussi sur le site de bfmbusiness.com, sur l'appli BFM, bien sûr, vous nous trouvez partout, alors sur nos adresses personnelles, Annalisa Capellini, Mathieu Jolivet. Nous, on a envie d'avoir vos retours.
Ouais.
Et on se retrouve la semaine prochaine, Mathieu.
Salut Annalisa, au revoir à tous.
Au revoir à tous.